Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Dans la chronique précédente, Daniel, vous avez décrit une sorte d'usure de la communauté économique européenne et un besoin de réforme. Cette réforme a-t-elle eu lieu et quand est-elle intervenue ?
Alors, cette réforme s'est produite au milieu des années 80 sous la forme d'un traité modificatif dont la très grande majorité des Européens a perdu le souvenir. Il est vrai que son nom est peu poétique et n'accroche guère. C'est l'acte unique européen, AUE. Alors pourquoi une telle dénomination ? Eh bien parce que se trouvent regroupées en un seul texte des modifications apportées au traité communautaire précédent et des dispositions relatives à la coopération dans le domaine de la politique étrangère européenne.
Alors dans quel contexte ce nouveau traité s'inscrit-il ?
Alors, au début des années 1970, les chocs monétaires et pétroliers ont cassé la belle croissance de la décennie précédente. Le deuxième choc pétrolier consécutif à la révolution islamique en Iran et le désordre monétaire provoquent l'éclosion de projets de réforme de la CE. Pour les États membres, il convient d'achever le marché commun et pour certains d'envisager aussi une coopération politique. Mais les discussions entre chefs d'État et de gouvernement achoppent sur la question budgétaire et la détermination britannique à obtenir une révision de la contribution du pays avec le fameux « Yann, I want my money back » de Madame Thatcher. Par ailleurs, des pays, le Royaume-Uni, le Danemark, expriment de fortes réticences pour une intégration politique européenne. Conséquence de ce blocage, une vague d'europessimisme se répand dans les opinions publiques.
Comment l'Europe sort-elle de ce blocage ?
Alors, le déblocage résulte de la volonté de deux dirigeants nationaux de relancer le projet européen. François Mitterrand et Helmut Kohl, bien que de sensibilités politiques différentes, se sont rapprochés au lendemain du tournant européen de la France. Par des gestes symboliques et des déclarations fortes, ils ont restauré la dynamique complice du couple franco-allemand Giscard-Schmitt. Ce déblocage survient en juin 1984, lors du Conseil européen de Fontainebleau. Outre le rabais consenti au Royaume-Uni, ce qui règle le contentieux financier, deux décisions sont prises par les chefs d'État et de gouvernement. Créer un comité chargé de faire des suggestions pour améliorer le fonctionnement de la coopération politique européenne et désigner comme nouveau président de la Commission le Français Jacques Delors. Ce dernier, à l'issue d'une tournée des capitales effectuée avant même son entrée en fonction, propose comme objectif l'achèvement du marché intérieur, c'est-à-dire la réalisation du marché unique. La relance peut commencer.
Alors, quels sont les jalons de cette relance ?
On peut en distinguer trois. En juin 1985, lors du Conseil européen de Milan, la Commission Delors remet au Conseil un livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur. Il comporte quelque 300 mesures législatives pour réaliser le marché unique au plus tard, le 31 décembre 1992. Dans le même temps, le rapport du comité que nous avons déjà évoqué préconise la tenue d'une conférence intergouvernementale pour réviser le traité de Rome. 6 mois plus tard, début décembre 1985, après 2 jours d'âpres négociations, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Luxembourg tombent d'accord. La signature de l'acte unique européen intervient en 2 temps, le 17 février à Luxembourg pour 9 pays et le 28 février à La Haye pour les 3 autres, Danemark, Italie et Grèce, pour une entrée en application le 1er juillet 1987.
Qu'y a-t-il dans ce traité ?
Alors dans le traité, on peut distinguer 2 parties. De loin, la plus fournie, celle qui porte les modifications apportées au traité de Rome en 3 volets. Premier volet, la création du marché unique reposant sur la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, avec la suppression ou la simplification des formalités douanières, la suppression des entraves techniques par le biais de l'harmonisation européenne, de la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire qu'un produit légalement commercialisé dans un État membre peut l'être dans tous les autres, mais aussi par la libéralisation des services, l'équivalence des diplômes, etc. Deuxième volet, l'élargissement des domaines de compétences, recherche, développement technologique, environnement, politique sociale, cohésion économique et sociale, politique monétaire, etc. Troisième volet, des réformes institutionnelles comme l'extension de la majorité qualifiée au Conseil, un accroissement du pouvoir du Parlement, l'existence juridique du Conseil européen. Dans la deuxième partie, un seul article, mais 12 alinéas, sont inscrites donc des dispositions sur la coopération politique européenne, notamment en matière de politique étrangère, avec l'introduction du concept de sécurité européenne et la création d'un secrétariat politique permanent à Bruxelles.
Comment expliquer que ce traité soit ignoré ?
Or, l'ambition de réaliser le marché unique paraissait susceptible de mobiliser. Pourtant, l'acte unique européen a été élaboré dans une grande indifférence et entériné sans difficulté majeure. C'est que le traité a été perçu comme plus technocratique que politique. Quelques deux ans après son entrée en application, en juillet 1987, la croissance du commerce intra-communautaire témoigne d'une indéniable réussite. Mais des lacunes subsistent. Monnaie, culture, citoyenneté, coopération politique réduite à la politique étrangère. Le formidable bouleversement géopolitique de la chute du mur et ses effets prévisibles, comme le retour à l'Ouest des États soviétisés, braquent le projecteur sur la préparation d'un traité fondateur de l'Europe politique, le traité de Maastricht, qui éclipse ainsi l'acte unique européen. Pourtant, c'est bien l'acte unique européen qui, en créant la dynamique de la relance, a tracé le chemin. En somme, l'acte unique aura été le pont indispensable entre les communautés et l'Union. 40 ans après sa signature, on peut partager l'appréciation portée par celui qui en a été l'artisan principal, à savoir Jacques Delors. J'ouvre les guillemets. L'acte unique a réussi, oserais-je dire, au-delà même de ce que la plupart pensaient à l'époque.